vous êtes donc concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, ou la pierre d'angle. Alors il me semble que ce verset pose les fondements de notre foi. Et en même temps, il nous dit que c'est toute la Bible, parce qu'on peut voir dans les prophètes l'Ancien Testament, on peut voir dans les apôtres les épîtres, on va dire, et dans Jésus-Christ les évangiles. Bon, mais en même temps, c'est tout l'enseignement donc qui nous a été donné par les Écritures. Et avant tout, cet enseignement, c'est de nous présenter Jésus-Christ. Donc notre foi repose sur Jésus-Christ, mais aussi sur l'enseignement de l'Ancien et du Nouveau Testament. On pourrait dire ça comme ça. Alors c'est important de dire ça en tout temps. C'est quelque chose qui ne change pas. Ça fait 2000 ans que la Bible a été constituée, a été complétée. Il n'y a rien besoin d'y ajouter depuis 2000 ans, ni d'en retrancher. C'est un vieux mur, ça. C'est quelque chose qui doit rester. Alors, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est important de ne pas faire attention à tout ce qu'on pourrait ajouter à la parole de Dieu. Par exemple, une profession de foi. Faut-il faire une profession de foi? Est-ce qu'un mouvement chrétien doit faire sa profession de foi? C'est courant, ça se fait couramment. Bon, personnellement, je suis pour qu'on soit toujours capable d'expliquer ce que l'on vit, ce que l'on pratique. Donc, ça peut être utile de décrire des principes de vie et de rassemblement, mais d'une manière pour donner un enseignement, dans un sens pastoral, de dire, voilà, on va coucher sur un papier la manière dont nous comprenons la parole de Dieu, de manière que les choses soient expliquées, soient clarifiées, et que ça explique pourquoi nous faisons de telle et telle manière. Ça, c'est utile. Mais de là en faire vraiment une profession de foi qui fait que, voilà, c'est ça notre base, et nous ne voulons pas nous démarquer à aucun moment de ça, c'est là que ça devient dangereux. Il faudrait que quand quelque chose est écrit, éventuellement, il puisse être corrigé à un moment donné, dans la mesure où on s'aperçoit que ce n'était pas tout à fait conforme à la parole de Dieu. Donc la base doit rester dans nos esprits, il faut que ça soit vraiment clair, que nous voulons vivre et nous voulons nous rassembler aussi selon la parole de Dieu, selon rien d'autre. Et notre vieux mur, il a 2000 ans. Il n'a pas 2 ans parce qu'un nouveau livre vient de sortir. Il n'a pas 150 ans parce que c'était le réveil évangélique. Il n'a pas 400 ans parce que c'était la réforme. Non, les fondements de notre foi ont été posés il y a 2000 ans. Je crois qu'il faut que ça soit vraiment bien clair dans nos esprits. Alors ce vieux mur, puisque c'est tout ce qui est ancien, on peut y voir aussi les anciens dans l'Assemblée. Et je pense que c'est un sujet important. Bon, je ne veux pas le développer, mais il me semble qu'il est très important pour une assemblée locale et pour des assemblées qu'il y ait des anciens connus et que ces anciens soient à la fois, je dirais, respectables et respectés. Respectable, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas anciens au bénéfice de l'âge, mais qu'ils sont anciens, le fait qu'ils pèsent le troupeau, comme ça nous est dit dans l'épître de Pierre, qui sont aussi irréprochables, enfin il y a tous ces caractères des anciens, donc des anciens qui sont méritants, on pourrait dire, enfin méritants, c'est peut-être pas un très bon mot, mais en tout cas respectables, qui sont dignes de confiance, sur lesquels on aime s'appuyer, et puis en même temps respecter, parce que la parole de Dieu est quand même claire, il ne faut pas relativiser les versets, c'est « Jeunes gens, soyez soumis aux anciens ». C'est dit noir sur blanc, donc c'est comme ça que c'est prévu. Mais évidemment, si les anciens ne sont pas trop dignes de confiance, c'est beaucoup plus difficile, et ça peut être aussi dangereux, de toujours leur obéir. Alors vous voyez, c'est comme quoi c'est un tout pour que les choses soient en ordre. Les anciens doivent être respectables, et donc ils doivent y travailler, et les jeunes doivent les respecter. Les jeunes n'aiment pas bien qu'on leur dise qu'il faut obéir, mais pourtant, il me semble que les assemblées sont en paix lorsque les choses sont comme cela. Voilà, ça c'était la porte du vieux mur. Alors on peut passer à la quatrième porte, qui est la porte de la vallée. Donc on la trouve au verset 13, porte de la vallée. Alors quand on parle de la vallée, très souvent on va tout de suite penser au psaume 23. Lorsque je passerai par la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et je me suis un peu posé la question, pourquoi vallée de l'ombre de la mort? Alors évidemment ça va nous parler de l'épreuve. Et je me souviens d'avoir vu quelques reportages de personnes qui sont allées en Israël. Bon, bien sûr, il y a la vallée du Jourdain qui est très très large, elle. Mais j'ai eu l'impression que bien souvent les vallées étaient étroites en Israël et qu'elles ressemblaient un peu à des canyons. Quand David a écrit ce psaume, peut-être qu'il pensait un peu à toutes ces occasions où il a été poursuivi par Saül, où il se faufilait dans des cavernes, dans des torrents, etc. Et donc, c'était certainement un peu ces vallées un peu ombragées où on ne se sent pas trop en sécurité. Donc voilà, la vallée va nous parler donc de l'épreuve. Alors, il y a ce verset de l'épître de Jacques qui est là pour nous encourager en rapport avec l'épreuve. C'est un verset bien connu, mais c'est toujours bon de le rappeler. Donc Jacques, chapitre 1er, verset 2. « Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » Voilà. Alors, bien sûr, je suis sûr qu'il y a beaucoup de frères et sœurs ici qui seraient beaucoup plus qualifiés que moi pour parler de l'épreuve. Mais voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Il faut faire une estimation. L'estimation, par définition, ce n'est pas objectif. On va estimer, même si ça ne nous vient pas naturellement, que lorsque nous allons connaître une épreuve, ça doit être un sujet de joie. Parce qu'on va essayer de regarder au-delà de l'apparence, au-delà de ce que l'on ressent, et regarder à Dieu. Il y a ce verset d'un psaume, je crois que c'est le psaume 39, qui dit « L'homme se promène au milieu de ce qu'il a de l'apparence, mais l'Éternel sonde les cœurs. » Dieu travaille avec les cœurs, il ne travaille pas avec les apparences. Et donc il faut se dire que lorsque nous sommes éprouvés, c'est un travail que Dieu fait pour que nous soyons parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Voilà, il faut considérer les épreuves que nous traversons comme une sorte de passage obligé que le Seigneur permet, nous fait rentrer dans un atelier où il va travailler en nous, il va nous forger, il va nous former. Et ça commence donc pour que nous puissions accumuler des qualités. Et la première qualité qui va apparaître, c'est la patience. Voilà. Et il y a un autre verset dans Jacques qui dit « Bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience ». Donc ça, c'est le premier pas, on pourrait dire. C'est d'endurer l'épreuve avec patience, c'est-à-dire en acceptant la situation. Au lieu d'être amer, de regimber un peu, d'avoir des sentiments de révolte. Voilà, un sentiment d'acceptation. On endure avec patience. Et alors à partir de cette base, le croyant va faire preuve de patience, il va supporter la circonstance. À partir de là, Dieu va construire. Il va construire sur un terrain qui est aplani, apaisé par la patience. Et là, les qualités vont s'accumuler les unes sur les autres. Et l'Éternel sonde le cœur. Il veut travailler sur notre être intérieur. C'est ça qui est important. Et nous, c'est des choses qu'on ne voit pas vraiment, pas forcément. Mais le Seigneur regarde, vous regarde et me regarde à l'intérieur. Il veut faire quelque chose de beau à l'intérieur. Et donc, voilà, soyons encore une fois dociles. Soyons patients dans les épreuves pour que ce travail se produise et s'accentue. Et que les qualités se cumulent pour que nous soyons accomplis, parfaits. Il va jusqu'à dire parfait et accompli, ne manquant de rien. Ne manquant de rien, ce n'est pas, encore une fois, à vue humaine. Ce n'est pas qu'on a tout ce qu'on voudrait, c'est qu'on n'a pas réalisé tous les rêves de sa vie. Mais c'est qu'on ne manque de rien sur le plan spirituel. On a acquis des qualités au travers de l'épreuve. Alors, vous voyez, c'est tout un programme. Mais que le Seigneur nous aide à déjà estimer que c'est positif, estimer que l'épreuve est positive, et ensuite nous placer sur ce terrain de la patience. Alors lui, ensuite, il va travailler et il va nous perfectionner. Ça, c'était la porte de la vallée. On va passer à la cinquième porte. La cinquième porte, c'est la porte du fumier. Fin du verset 13. Alors, le fumier, qu'est-ce que c'est le fumier dans la vie du chrétien? Bon, il faut déjà dire que cette porte, visiblement, elle était au bout de la ville, côté vallée de Hinnon, au sud de la ville. C'est là qu'on jetait les poubelles, tout simplement. Voilà, porte du fumier, on mettait le fumier des animaux et les poubelles. Donc, quel est le fumier dans la vie du chrétien, comme dans la vie de tous les humains, au sens spirituel? Eh bien, bien sûr, c'est le péché. Donc, comment se débarrasser du péché? Comment aller à cette porte du fumier pour jeter les poubelles? Alors, bien sûr, il y a le fait d'être pardonné de ses péchés une fois pour toutes, mais je ne reviens pas sur là-dessus, c'est par la foi au Seigneur Jésus, bien sûr. Mais ensuite, si dans notre vie chrétienne, il nous arrive de chuter, eh bien, nous avons aussi une ressource, on peut dire, pour se débarrasser d'un péché que nous avons commis. C'est 1 Jean 1, verset 9. Ça, c'est vraiment une référence à savoir par cœur. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà. Qu'est-ce qui est demandé aux croyants? Est-ce qu'il lui est demandé de se convertir à nouveau parce qu'il a à nouveau commis un péché. Pas du tout. Il lui est simplement demandé de confesser le péché. Le péché, en un certain sens, est déjà pardonné par le sang de Christ. Mais il s'agit simplement que ce péché ne pèse plus sur notre conscience et qu'il ne soit plus un obstacle à la communion avec Dieu. Donc, c'est comme ça que nous allons nous en débarrasser, pas en l'oubliant, mais en le confessant, en disant clairement au Seigneur, voilà, j'ai commis telle chose. Et moi, je suis pour qu'on confesse les péchés de manière explicite, pas dire, oh, j'ai commis beaucoup de péchés aujourd'hui, pardonne-moi. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose comme ça. Il faut me dire, voilà, j'ai menti à telle personne, puis j'ai grillé un feu rouge, puis dire les choses comme ça, clairement, devant le Seigneur. Parce qu'en même temps, c'est une bonne leçon pour nous de s'entendre dire ce qu'on a fait. Donc peut-être que ça va moins nous donner envie de recommencer. Mais en tout cas, que les choses soient vraiment jugées devant le Seigneur. Tel acte, j'ai commis tel acte, c'est un péché, Seigneur, je le regrette. Donc ça, c'est un peu jeter, on va dire, ces poubelles par la porte du fumier. Et donc, c'est suffisant. Il ne faut pas ensuite repartir en se culpabilisant encore. C'est ce que je dirais, il faut refermer la porte du fumier, sinon ça sent mauvais. Et ce n'est pas bon que ça sente mauvais dans notre vie. Si on est toujours en train de se culpabiliser à cause de choses qu'on a commises et qu'on a confessées, c'est destructeur. La culpabilité, ça ne fait de bien à personne. Et les psychologues le disent, il ne faut surtout pas culpabiliser. Alors eux, leur méthode, c'est il faut toujours se justifier. Vous aviez raison, d'une certaine manière, de faire ça. Ce n'est pas votre faute. Ou bien vous avez bien fait, dans un certain sens. Il paraît que c'est comme ça qu'ils positivent, on positive. Nous ne positivons pas, nous confessons. Voilà, c'est comme ça que Dieu nous débarrasse du sentiment de culpabilité par la confession. Et ensuite, effectivement, on peut repartir avec l'esprit libéré, ne pas repartir avec ses poubelles. On n'imagine pas quelqu'un qui va à la déchetterie, qui rentre et puis qui repart avec les déchets. Il laisse ses déchets et il s'en va. Alors, ça c'est un aspect du fait de se débarrasser du péché. Bon, on commet des péchés, on les confesse. Mais effectivement, il y aurait peut-être une meilleure situation. Ça serait d'essayer d'éviter de commettre des péchés. Alors, c'est tout le côté de la sanctification. Et si on reprend l'image que le Seigneur a donnée par le lavage des pieds, bon, il y a celui qui a le corps tout lavé. Ça, c'est une chose. Ses péchés sont pardonnés une fois pour toutes par rapport au jugement. Ensuite, il n'a besoin que de se laver les pieds. Donc, il va se laver les pieds. Ça consiste à quoi faire ? À confesser ses péchés. Alors, on lave simplement les pieds. Ça ne remet pas en question le lavage de notre corps. On est quand même sauvé, mais on a besoin de se laver les pieds. Mais évidemment, la situation idéale, ce serait de ne jamais se salir. Et donc, ça, c'est un état, on pourrait dire, du chrétien qui a fait un travail de sanctification. On peut dire aussi d'affranchissement. Alors, bon, c'est un vaste sujet, je ne veux pas y entrer, mais moi je pense à un verset qui pour moi est un verset clé par rapport à l'affranchissement. C'est Romains 6, verset 11. Je veux simplement lire ce verset. Romains 6, verset 11. « De même vous aussi, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu. » Personnellement, c'est un verset qui m'aide beaucoup. « Se tenir pour mort au péché. » C'est-à-dire que lorsque on va être tenté de commettre un péché, tenté de se mettre en colère, tenté de réagir d'une mauvaise manière, tenté de dire des mauvaises paroles, eh bien, il faut que ça fasse un peu l'effet sur nous que ça ferait sur un mort. Voilà, se dire que je suis mort. Le péché, une manière de réagir charnelle, c'est plus moi, c'est plus mon affaire, parce que ce Pierre-Henri Nau méchant, là, il est mort. Voilà. Et donc celui-là, il ne bouge plus. Ce n'est pas la peine d'essayer de le réveiller, il ne bouge plus. Voilà. Sur le plan pratique, chacun le ressentira sûrement différemment, mais se tenir pour mort au péché. Voilà, le péché ne doit plus avoir d'écho en moi. Et ensuite, l'apôtre va le développer, il va dire que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. Voilà, se considérer comme mort au péché. Voilà, alors avec ceci, nous avons terminé la porte du fumier, c'était la cinquième.